VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, crise politique au Mali, le mouvement de contestation observe une trêve jusqu'à la Tabaski. Bamako attend l'arrivée jeudi de 4 chefs d'État de la sous-région. À Khartoum, début du procès de l'ex-président Omar El-Béchir. Il a été aussitôt reporté car ses 190 avocats ne pouvaient tenir dans la salle d'audience. Accord historique sur un plan de relance économique de l'Union européenne, mais pour le moment, aucune réponse commune en Afrique. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a été reçu à Londres par le Premier ministre Boris Johnson en pleine tension avec la Chine. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Au Mali, le comité stratégique du mouvement de contestation a décidé d'observer une trêve pour permettre aux Maliens de préparer la fête de la Tabaski. Cette décision intervient peu avant l'arrivée d'une mission de 4 chefs d'État ouest-africains attendus jeudi à Bamako qui viendront tenter de trouver une solution à la crise. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
La désobéissance civile était non sans difficulté pour les Bamakois. En plus des barricades et des pneus brûlés, certains jeunes avaient commencé à dépouiller les motocyclistes et autres usagers de la route. Issa Kaoudjib, coordinateur de la CEMAS.
Vous savez très bien que nous sommes un pays profondément culturel. Il y a l'approche de la fête, il y a beaucoup de difficultés sociales.
La trêve de 2 semaines, c'est aussi une manière de donner la chance au dialogue. Avec l'arrivée des 4 chefs d'État africains, à savoir Mahamadou Issoufou du Niger, président en exercice de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Nana Akufo-Addo du Ghana et Macky Sall du Sénégal.
Nous savons tous qu'il y a beaucoup de discussions dans les coulisses. Bon, c'est aussi vraiment faire preuve, montre des responsabilités. Et nous estimons aussi que cela est conforme à notre tradition et je me félicite de cette décision très responsable et sage.
L'autre avantage de la trêve du M5 est de faire le bilan des activités menées, mais aussi de se préparer pour le dialogue. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Niger, les fortes précipitations depuis le début de la saison des pluies ont fait 9 morts, 17 blessés et 20 000 sinistrés dans les régions de Dosso, Maradi et celles de Tawa et Tillabéri. Le ministère de l'Intérieur appelle les populations à ne pas s'installer dans des zones inondables. Depuis juillet, le gouvernement a alerté que plus de 300 000 personnes sont menacées cette année. Au Nigeria, 15 enfants âgés de 2 à 10 ans ont été libérés d'une école coranique de la ville de Souleja, où ils étaient détenus selon Waziu Abiodun, le porte-parole de la police. Les écoles religieuses islamiques informelles, appelées Al-Majiri, sont nombreuses au Nigeria. Le procès de l'ex-président soudanais Omar El-Béchir et de 27 autres personnes accusées d'avoir pris le pouvoir par un coup d'État en 1989 s'est ouvert ce mardi devant une cour spéciale à Khartoum. Plus de détails avec Nanit Talani.
La première audience ce mardi n'a duré qu'une heure car la salle n'a pas pu accueillir les 191 avocats de la défense. La cour spéciale, formée de 3 juges, a fixé au 11 août la prochaine audience afin de prendre des mesures pour permettre l'accueil de tous les avocats. M. Béchir et ses co-accusés, civils et militaires, ont comparu dans des cages. Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises. À l'arrivée des fourgons, les familles des accusés venues en nombre ont crié « Allah Akbar ». Le président du tribunal a assuré que la cour va écouter tous les 28 accusés et donner à chacun d'eux la possibilité de se défendre. Sur une banderole au-dessus des juges figurait une sourate du Coran « Si vous jugez les gens, faites-le avec justice ». Omar El-Béchir, âgé de 76 ans, et plusieurs des accusés risquent la peine de mort pour avoir renversé le gouvernement démocratiquement élu du premier ministre Sadek Al-Mahdi il y a 31 ans. Trois juges sont chargés de mener ce procès inédit dans le monde arabe, où jamais l'auteur d'un putsch réussi n'avait été jugé dans l'histoire récente.
Une réunion sous l'égide de l'Union africaine consacrée au grand barrage éthiopien sur le Nil a débuté cet après-midi. L'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte ont été invités à se joindre à ces négociations dans un contexte de fortes tensions entre les trois pays. L'Éthiopie juge le barrage essentiel pour son développement et l'Égypte le considère comme une menace grave. En Tanzanie, les élections présidentielles, législatives et municipales auront lieu le 28 octobre, a annoncé la Commission électorale nationale. Et la campagne électorale se déroulera du 26 août au 27 octobre. Les autorités affirment que le pays n'est plus touché par le coronavirus, mais aucun chiffre officiel concernant la pandémie n'a été publié depuis le 29 avril. Le président sortant, John Magufuli, se représente pour un second mandat. À Madagascar, les principaux hôpitaux d'Antananarive, la capitale, sont submergés par l'afflux de patients atteints de Covid-19. Le nombre de malades ne cesse d'augmenter dans ce pays où le gouvernement avait pourtant vanté les mérites d'une tisane à base de plantes. En Afrique du Sud, le ministre du Travail et le ministre de l'Énergie ont été hospitalisés après avoir contracté le Covid-19. Les deux ministres sont âgés de plus de 60 ans. La nation arc-en-ciel compte à ce jour plus de 373 000 cas confirmés et 5 173 décès.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants européens ont conclu aujourd'hui un accord sur un plan de soutien à leurs économies frappées par la crise du coronavirus. Une enveloppe de 750 milliards d'euros a été conclue au terme d'intenses négociations à Bruxelles. Eric Manirakiza.
Une étape majeure a été franchie, a affirmé le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse conjointe avec la chancelière Angela Merkel. Il s'agit d'une réponse à la plus grande crise de l'Union européenne depuis sa création, a ajouté la chancelière allemande, dont le pays préside actuellement l'Union. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a salué un grand accord pour l'Europe, allant jusqu'à le qualifier de vrai plan Marshall. Les négociations ont été difficiles, à un moment très difficile pour tous les Européens, a souligné le président du Conseil européen, Charles Michel, chef d'orchestre du sommet qui a duré plus de 90 heures. Pour la première fois dans l'histoire européenne, le budget est lié aux objectifs climatiques et le respect de l'état de droit devient une condition pour l'octroi des fonds, s'est par ailleurs félicité Charles Michel. Le plan prévoit un fonds de 750 milliards d'euros qui pourront être empruntés par la Commission sur les marchés. Il se compose notamment de 90 milliards de subventions allouées aux États les plus frappés par la pandémie, une dette commune à rembourser par les 27. Outre ces subventions, 360 milliards d'euros seront disponibles pour des prêts remboursables par le pays demandeur.
En France, les chiffres du Covid-19 sont inquiétants et le pays peut basculer dans une situation comme celle qui sévit en Catalogne, a averti le président du Conseil scientifique. L'Autriche va rendre le port du masque à nouveau obligatoire vendredi dans les supermarchés. Aux États-Unis, il y a plus de 60 000 nouveaux cas en 24 heures pour le 7e jour consécutif. La situation est alarmante en Californie, en Floride et au Texas. Le président américain a décidé de reprendre ses points presse quotidiens sur la gestion de la pandémie. Le premier est attendu cet après-midi à 17h heure locale. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a rencontré ce mardi à Londres le premier ministre britannique Boris Johnson. Les deux personnalités ont évoqué les relations avec la Chine. Les précisions de Mohamedou Oumfa.
Entre la Chine et la Grande-Bretagne, les relations sont refroidies. Le Royaume-Uni a provoqué la colère de Pékin en offrant un accès facilité à la nationalité britannique à près de 3 millions d'habitants de Hong Kong. Les Britanniques ont rajouté une couche lundi en suspendant le traité d'extradition avec Hong Kong et en étendant l'embargo sur les armes. Londres a aussi décidé d'exclure Huawei, le géant chinois des télécoms, du réseau 5G britannique. Le gouvernement de Boris Johnson critique la loi chinoise chinoise sur la sécurité nationale imposée à Hong Kong le mois dernier. Il estime que Pékin viole les termes du traité sino-britannique de 1997 qui avait accompagné la rétrocession de cette ancienne colonie britannique. Ses positions sont proches de celles des États-Unis et le secrétaire d'État Mike Pompeo s'est dit très satisfait. Washington, de son côté, a restreint les visas pour les responsables chinois accusés de remettre en cause l'autonomie de Hong Kong. Mike Pompeo a prévu de rencontrer Nathan Lau, un des jeunes leaders du mouvement de contestation à Hong Kong qui réside maintenant à Londres.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. De l'actualité économique en Afrique et dans le monde, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
L'inflation annuelle au Nigeria a augmenté pour un 10e mois consécutif au mois de juin. Une augmentation, selon la Tribune Afrique, causée entre autres par la hausse des prix des produits alimentaires et des soins de santé suite notamment aux perturbations dans la chaîne des distributions et logistiques selon le Bureau national des statistiques. L'inflation a atteint 12,56%, son plus haut niveau au cours de ces dernières années, contre 12,4% en mai dernier. 7,6 millions de dollars, c'est le montant d'un allègement de la dette approuvé par le Fonds monétaire international au profit du Burundi. Selon le FMI, l'allègement pendant 3 mois serait potentiellement porté à un peu plus de 24 millions de dollars au cours des 21 prochains mois si des ressources sont disponibles. Le réseau social professionnel en ligne LinkedIn a annoncé ce mardi la suppression d'environ 960 postes, soit 6% de ses effectifs, en raison de la crise de l'emploi suite à la pandémie de COVID-19. Rachetée par Microsoft en 2016, la société californienne facilite notamment les contacts entre employeurs et chercheurs d'emploi. Les réductions drastiques des besoins personnels engendrés par la crise sanitaire ont eu de l'effet sur le recrutement du site, source principale de ses revenus.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La MAFSI, l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire, a accordé son parrainage à Didier Drogba, candidat déclaré à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. On avait promis depuis Yamoussoukro qu'on ira jusqu'au bout, a confié à l'infodrome Yaouré Loba, président de la commission régionale des arbitres d'ICIA et président de la conférence des présidents des arbitres. Sur 223 votants, l'ancien capitaine des éléphants a recueilli 218 voix, soit 97,57% lors de l'assemblée générale de ses arbitres à Yopougon. Didier Drogba en est reconnaissant. Didier Drogba, candidat déclaré à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Pour rappel, 24 présidents des centres régionaux d'arbitres, conduits par le président sortant Koulibaly Souleymane, avaient accordé leur parrainage le samedi 13 juin à Yamoussoukro au candidat déclaré Souri Diabaté. Une partie des arbitres en avait été exclue. Et ce sont ces exclus de Yamoussoukro qui se sont réunis le lundi 20 juillet en Assemblée générale à Yopougon pour accorder leur parrainage à Didier Drogba. En Égypte, dans un communiqué, la Fédération égyptienne de football dénonce un deux poids, deux mesures de la CAF dans l'organisation de la Ligue des champions. Les Égyptiens décrivent l'annonce d'un retour au format initial des demi-finales, alors que la Coupe CAF aura son Final Four. Après le désistement du Cameroun, seule l'Égypte s'est officiellement présentée pour abriter le tournoi, mais la CAF envisagerait de revenir sur sa décision et jouer le dernier carré en aller-retour. La fédération égyptienne dut ne pas comprendre pourquoi le Maroc est pris pour arbitrer le Final Four de la Coupe de la Confédération avec encore deux clubs en compétition, alors que l'Égypte, également avec deux clubs toujours en lice, n'aurait pas ce droit en Ligue des champions. Ici, en MLS, l'Inter Miami, propriété de David Beckham, est le premier club éliminé du tournoi organisé par la Ligue nord-américaine de football à huis clos après sa défaite dans le groupe A contre New York City FC 1-0. Un but inscrit en seconde période par l'international libyen Ismaël Tadjouri Chadri permet à New York City FC de conserver un petit espoir d'accrocher les huitièmes de finale, accessible aux quatre meilleurs troisièmes des six groupes. Pour Miami, nouveau venu cette saison à MLS, c'est en revanche bien fini après ce troisième revers en autant de rencontres. Orlando City et Philadelphia Union se sont déjà qualifiés pour le tour suivant. La MLS a repris le 8 juillet sous un format similaire à la Coupe du Monde avec phase de groupe et élimination directe à Disney World en Floride.
Merci à Cuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Après de longues et difficiles négociations, les dirigeants de l'Union européenne ont conclu ce mardi un accord sur un plan de relance. Quelques 750 milliards d'euros seront mobilisés pour aider 27 pays européens à redynamiser leurs économies post-Covid. En Afrique, où les économies des pays connaissent une contraction à cause de la pandémie, on note une absence de réponse coordonnée. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint à Dakar l'économiste Demba Moussa Dembélé.
Pour parler d'une seule voix, parce qu'elle a l'habitude, entrant au niveau des 27, de parler d'une voix quand il s'agit de problèmes cruciaux. Cette période post-Covid est une période très cruciale pour l'Europe, mais là, pour l'Afrique. La difficulté, c'est d'abord au niveau, même au niveau régional, la difficulté de pouvoir parler d'une seule voix sur ces questions, encore moins au niveau continental. C'est beaucoup plus difficile.
Pourquoi, par exemple, des institutions comme la CEDEAO, qui sont assez bien intégrées quand même, n'arrivent pas à mettre en place un programme commun?
La CEDEAO se compose de pratiquement deux entités. Il y a les pays de l'UMOA et il y a les autres qui ont leur propre monnaie nationale et qui donc ont des stratégies qui sont un peu différentes de celles de l'UMOA. Mais même au niveau de l'UMOA, il y a eu un programme de relance. Mais malheureusement, comme vous le savez, il y a une différence entre mettre sur pied un programme de relance et mobiliser les fonds pour la mise en œuvre de ce programme de relance. Et l'un des tendons d'Achille de l'Afrique, c'est la question du financement. L'Europe a les moyens de financer son programme parce que d'abord, au niveau de chaque pays, les gouvernements peuvent mobiliser au niveau interne, mais il y a également le soutien de la Banque Centrale Européenne. Malheureusement, en Afrique, ce n'est pas le cas.
Monsieur Dembélé, justement dans la recherche de solutions, ou en tout cas dans les propositions pour aider les économies africaines, beaucoup évoquent la question de la dette.
Les 200 milliards que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a estimé, ces 200 milliards doivent venir pour la plupart de l'extérieur. Et c'est là où se pose le problème de la dette. Parce que venir de l'extérieur, ça veut dire quoi? On appelle les partenaires au développement, les bailleurs de fonds, multilatéraux et bilatéraux. Et donc, ça va gonfler la dette du continent. Et vous avez évoqué, bien sûr, le débat actuel sur l'annulation ou le moratoire sur la dette, tout simplement parce que c'est de cette manière que la plupart des pays africains espèrent mobiliser des ressources. Alors, mais l'annulation de la dette ne peut pas régler le problème du financement de l'Afrique, parce que d'abord, ça représente une somme mineure par rapport aux besoins. Et ensuite, il y a les conditions qui accompagnent cette annulation de la dette et qui risquent même de poser des problèmes pour des endettements ultérieurs.
C'était l'économiste sénégalais Demba Moussa Dembélé. Deuxième épidémie d'Ebola dans l'ouest de la République démocratique du Congo depuis le 1er juin. L'Organisation mondiale de la santé lance un cri d'alarme. Le bilan dépasse celui de la précédente épidémie dans cette même région. Eddy Sango a joint à Bandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, le docteur Aaron Aruna, directeur de la surveillance épidémiologique en RDC.
Depuis le début de l'épidémie, nous avons 61 cas et 24 décès enregistrés depuis qu'on a déclaré l'épidémie. Et parmi ces 61 cas, il y a 57 cas confirmés, c'est-à-dire les cas chez qui on a prélevé les échantillons, on a éliminé l'échantillon au laboratoire et on a confirmé 57. Et il y a 4 cas qui on considère comme les cas probables, donc les cas qui sont décédés, qui ont des liens épidémiologiques, mais qui n'ont pas eu l'opportunité de faire les examens de laboratoire. Mais à côté de cela, il faut noter que nous avons déjà enregistré 19 guéris. Et la maladie se propage effectivement dans 7 zones de santé. Il y a la zone de santé de Mbandaka, la zone de santé de Wangata, la zone de santé de Bikoro, la zone de santé de Iboko, et tout simplement, et il y a Lukumbe et Bolomba. La dernière zone de santé qui vient de s'ajouter, c'est la zone de santé d'Ingembe. Dans chaque zone de santé, il y a seulement quelques aires de santé où on notifie les nombres des cas.
Que peut-on dire de cette épidémie par rapport aux épidémies précédentes dans cette province?
Ce qu'il faut noter, c'est que chaque épidémie a sa particularité. Je pense que cette épidémie a la particularité parce que la plupart des personnes que nous avons trouvées sur le terrain sont déjà formées, ils étaient déjà préparés parce qu'il y a des 3 ans, ils étaient formés, ils étaient dans la réponse. C'est ce qui fait qu'on n'assiste pas à des flambées au niveau des zones de santé. On trouve seulement des cas, un cas, deux cas isolés au niveau de la communauté. Il y a un mouvement de la population comparé à 2-3 ans, et à ces mouvements de la population au niveau de l'eau, au niveau routier, c'est ce qui facilite un peu la propagation. Mais comme les zones de santé ont été déjà formées, ça nous a permis d'alerter et de détecter les cas. Vous serez surpris que les zones de santé périphériques et les taux de létalité est faible. Prenons l'exemple de Lukumbe, il y a 4 cas, tous les cas sont vivants. À Bolomba, il y a, je ne sais pas, 7 cas, il y a seulement un décès. Mais les problèmes se passent en Mbandaka dans la ville parce que dans les quartiers Air Congo, il y a eu beaucoup de résistance, c'est ce qui a freiné l'épidémie et c'est cette résistance qui est à la base parfois de la propagation de la maladie. Mais c'est une épidémie qui peut être maîtrisée rapidement. Les petits problèmes que nous avons eu, c'est les problèmes de mobilisation des ressources, comme vous savez, il y a la crise Covid, on vient de passer la grande épidémie de l'Est, alors la mobilisation des moyens pose un peu de problème. Nous essayons de maîtriser la situation avec le peu de moyens que nous avons.
Pourtant, l'OMS vient de tirer une sonnette d'alarme.
C'est pour conscientiser tout le monde en disant que voilà, il faut mettre la main dans la pâte. Mais si vous regardez la courbe, nous sommes à la phase des siestes. C'est-à-dire qu'on a la troisième partie de l'épidémie, on notifie un à deux cas. On a déjà dépassé les pics. Nous sommes dans cette phase-là.
Docteur Aaron Haruna, directeur de la surveillance épidémiologique en République démocratique du Congo.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Cameroun, les autorités médicales affirment que plus de 200 000 enfants n'ont pas reçu à temps les vaccinations de routine depuis mars à cause du Covid-19. Les parents refusent d'amener leurs enfants à l'hôpital par peur d'être infectés par le virus qui affecte 17 000 personnes et a fait près de 400 morts. Les médecins préviennent que sans les vaccinations, les enfants risquent d'attraper des maladies évitables comme la diphtérie, la rougeole et le tétanos. Moki Edwin Kinzeka fait le point depuis Yaoundé. Le récit est de Mohamedou Oumfa.
Le bébé de 4 mois pleure en recevant son deuxième vaccin contre la polio à l'hôpital de la Fondation Chantal Biya à Yaoundé, la capitale. Elisabeth Mbougon, 27 ans, se fait vacciner avec son bébé avec près de 3 mois de retard parce qu'elle avait peur d'aller à l'hôpital pendant la pandémie du Covid-19.
J'ai accouché au mois de mars et le premier vaccin a été administré au bébé contre le tétanos. Ils m'ont donné un autre rendez-vous pour mois d'avril. Je n'ai pas respecté ce rendez-vous car j'avais peur du coronavirus.
Il a changé d'avis suite à une émission télévisée sur les dangers de ne pas vacciner les enfants. Le pédiatre Clémence Voukmo confirme que pour de nombreux parents, la peur du coronavirus les empêche de faire vacciner leurs enfants.
48 000 enfants à 54 000 enfants non vaccinés entre mars et avril. Pour le mois de juin, nous sommes à 61 000 enfants non vaccinés. La pandémie nous impose la réorientation des ressources et les mesures barrières également entraînent une restriction du nombre d'enfants à vacciner par session de vaccination. Des mesures qui vont permettre à l'ensemble des équipes de vaccination d'avoir une communication efficace avec les parents.
Le programme élargi de vaccination précise qu'au moins 200 000 enfants n'ont pas été vaccinés comme prévu. Shalom Tchokfe, adjoint au secrétaire permanent de ce programme, joint au téléphone à Douala.
Nous avons constaté une baisse extrêmement importante du service de la vaccination d'environ 50%.
Les Nations Unies ont mis en garde ce mois-ci contre une baisse alarmante du nombre d'enfants vaccinés contre des maladies évitables telles que la diphtérie, le tétanos et la rougeole. Selon une étude publiée par le journal Lancet Global Health, la poursuite des vaccinations de routine pourrait entraîner 8300 décès supplémentaires en Afrique dus au COVID-19. Mais selon l'étude, la suspension des vaccinations pourrait entraîner la mort de plus de 700 000 enfants africains des maladies évitables.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, Alassane Ouattara sera-t-il candidat à un troisième mandat? Le débat est relancé après la mort du premier ministre Amadougou Koulibaly, qui était choisi pour défendre les couleurs du RHDP à la présidentielle d'octobre. Ce, au sein de son parti, qui se prononce en faveur de sa candidature, estime que cela éviterait une bataille de succession. S'il se présente, il fera face à l'ancien président Henri Konan Bédié. Rendez-vous jeudi 23 juillet à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Selon un rapport de l'ONG Justice et Dignité pour les femmes du Sahel, la violence contre les femmes et les filles est en forte hausse dans la région du Sahel depuis le début de la pandémie de COVID-19. L'enquête révèle une augmentation de 30% au Tchad et de près de 15% au Sénégal. Des chiffres à interpréter avec prudence, car à peine 5% des femmes interrogées ont répondu à l'enquête au Niger, soit par peur ou à cause de la pression sociale. Nathalie Barge, adjointe à New York, Aïda Amaadi Ouallaté, fondatrice de l'ONG Justice et Dignité pour les femmes du Sahel.
C'est-à-dire, il y a des pays où les gens ont moins de tabous pour en parler. Et il y en a où on a eu du mal à avoir les échantillons qu'on a eus. Mais je pense qu'au Tchad et un peu partout au Sahel, les VBG sont très élevés, même avant cette période de pandémie, à cause de la crise multidimensionnelle politique que le Sahel vit. Mais avec la pandémie où les gens sont confinés, le Tchad a une augmentation de 30%. Et peut-être c'est dû peut-être aux volontaires qui sont sur place, qui ont été un peu plus actifs ou bien qui ont pu avoir un peu plus de participation. Comparons, on a eu plus de participation au Mali, au Sénégal que dans les autres six pays. Hein, parce que le taux de scolarisation et le tabou est moindre au Sénégal que dans les autres pays de la sous-région.
Quel est le constat général sur votre enquête?
Le total de violences conjugales, qu'elles soient physiques ou verbales, passe de 40% avant la COVID à 52,18% durant la crise liée à la pandémie, soit un taux de croissance de 12%. Donc le Tchad connaît la plus forte augmentation de violences conjugales, de 30%. Le Sénégal passe de 81% de violences conjugales à 96%. Le Mali est le deuxième pays avec un taux élevé de 43% avant COVID, contre 54% durant le COVID, soit une augmentation de la violence de 11%.
Vous qui êtes malienne, est-ce qu'il y a un numéro vert chez vous dans votre pays pour que les victimes puissent dénoncer ce qu'elles subissent?
Oui, on a au Mali quand même, on a certains organismes avec l'appui des organismes internationaux. On a aussi WildAF, ils ont One Stop Shot, mais il y a un problème de moyens, il y a les lois, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a le patriarcat, il y a beaucoup de choses qui sont là, donc on a beaucoup plus de travail, on a beaucoup plus de un chemin à faire.
Alors, quelles sont vos recommandations, justement, après ce rapport?
Il est évident que toute situation de crise humanitaire affecte disproportionnellement les femmes et les violences basées sur le genre. Mais on recommanderait dans cette lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, notamment du Sahel, d'aider surtout à leur autonomisation. Et les dispositifs de prise en charge des cas des EVG sont au démarrant faibles et ces existants sont très très peu opérationnels contrairement à d'autres pays hors du champ de l'étude.
Aïda Amaadi Ouallaté, fondatrice de l'ONG Justice et Dignité pour les femmes du Sahel.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains. Du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagno. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute.